Alors, bon matin à vous tous. Et merci Steve, toute son équipe pour ces beaux chants de louange. Toujours bien de chanter à la gloire de notre Seigneur et nous prépare justement pour l'enseignement de sa parole. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles ce matin et de trouver le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 9. Et nous allons considérer les versets 16 à 31. Et juste pour vous mettre un peu dans le contexte, en guise d'introduction, Néhémie 9 est une prière de confession, tout comme Esdras chapitre 9 et Daniel chapitre 9. C'est trois chapitres 9, trois livres qui nous parlent des prières de confession. Et dans cette prière que nous avons devant nous ce matin, les Lévites, ces hommes de Dieu qui dirigeaient le peuple dans le jeûne et repentance, ils vont focaliser sur l'histoire d'Israël depuis Abraham jusqu'à leur jour. Il y a deux raisons pour cela. Tout d'abord, quand on considère le passé, ça devrait avoir un impact sur le présent. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas répéter les erreurs du passé. Et Israël avait commis beaucoup d'erreurs, vous allez voir dans le texte. Et deuxièmement, le thème des versets 16 à 31, c'est la bonté de Dieu. Et Israël avait un grand besoin de focaliser sur la bonté de Dieu pour éviter justement deux maux. Dans un premier temps, on peut mépriser la bonté de Dieu. C'est ce qu'ils avaient fait dans le passé. Ils avaient méprisé la bonté de Dieu. Et ils pourraient faire cela de nouveau et ressembler à leur père. Alors, ils n'auraient rien compris. Qu'est-ce que ça donnerait à Israël d'avoir maintenant la ville de Jérusalem entourée des belles murailles, mais encore dans une situation où est-ce que leur relation avec Dieu est tout à fait corrompue, c'est pourri. Vous avez un peuple qui est là, il y a une construction physique qui a été faite, mais la construction spirituelle laisserait à désirer. Et la deuxième chose aussi, on pourrait aussi avoir voir le contraire. Israël pourrait s'affliger et se condamner jusqu'au point de perdre espoir, de restaurer leur relation brisée avec Dieu. Bref, perdre le espoir d'un réveil. Alors, cette prière de confession adresse justement ces deux problématiques. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais justement dire quelques mots à propos de la bonté de Dieu. Ça, c'est le titre du message, la bonté de Dieu versus la rébellion d'Israël. Il est important de saisir que Dieu est bon dans toute sa personne, dans toute sa nature, dans toute son essence. Cela implique aussi que dans tous ses agissements, Dieu est enclin d'agir de façon bienveillante envers toute sa création, et cela même quand il s'agit de ses jugements contre le péché. Je vous cite quelques textes. Psaume 25, 8 dit ceci: l'Éternel est bon et droit. Psaume 118, 1 dit ceci: louez l'Éternel, pourquoi? Car il est bon. Et nous avons aussi d'autres beaux textes, comme nous trouvons dans Psaume 119, 68. « Tu es bon », en parlant de Dieu, « et bienfaisant ». Et Psaume 45, 9 nous dit ceci: « L'Éternel est bon envers tous ». Et remarquez aussi que la bonté de Dieu est immuable. La bonté de Dieu ne change pas, parce que cette bonté émane de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette bonté émane du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et en disant cela, je sais qu'il y a des gens qui vont répliquer: si Dieu est bon, pourquoi, ça c'est la question fameuse, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Comment se fait-il qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent aux bonnes personnes? Ou bien on entend souvent: où était Dieu quand telle et telle chose est arrivée? Je ne prétends pas d'avoir toute la sagesse de Dieu pour comprendre pourquoi parfois il permet certaines choses de venir dans nos vies, mais deux réponses m'aident à accepter justement cette situation difficile. Quand on part de la souffrance et on se pose la question, où était Dieu quand une telle chose est arrivée? Mais souvent, la réponse que les gens donnent, c'est il était à la même place qu'il était quand son fils est mort sur la croix, injustement pour vos péchés et pour mes péchés. Et un Dieu qui a pu donner son fils justement pour mourir pour nos péchés, c'est un Dieu qui est bon. Et deuxièmement, ne demandez pas pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. On devrait plutôt se demander pourquoi les bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes. Pourquoi est-ce que Dieu fait lever son soleil sur les méchants? Pourquoi est-ce qu'il fait pleuvoir sur les injustes? Et la troisième chose, la bonté de Dieu englobe tous ses autres attributs. Comme Moïse a voulu voir la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je te ferai passer devant toi toute ma bonté. Et vous connaissez l'histoire, l'Éternel va cacher Moïse dans le creux d'un rocher, il va passer devant lui et proclamer son nom. Et qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et fidélité. Alors quand Dieu déploie sa miséricorde envers nous, c'est parce qu'il est bon. Ça émane de sa nature. Quand il est compatissant envers nous, c'est parce qu'il est bon. Quand il est lent à la colère, quand il est fidèle, même quand nous sommes infidèles, c'est parce que Dieu est bon. Dans Psaume 34, 9, le psalmiste nous exhorte, vous et moi, de faire une expérience personnelle de la bonté de Dieu. Il va dire ceci, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et c'est ma prière ce matin que nous tous, nous puissions être saisis par la bonté de Dieu. Alors, lisons notre texte, Néhémie 9, 16 à 31, que j'ai intitulé « La bonté de Dieu versus la rébellion d'Israël ». Verset 16. « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil, parlant d'Israël, et raidirent le coup, ils n'écoutèrent point tes commandements. » Verset 17. « Ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent le coup, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en métal fondu et dirent, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qui se livrèrent envers toi de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin. » Ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnais ton bon esprit pour les rendre sages, et tu ne refusas point ta main à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux des contrées et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays d'Og, roi de Bassan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananiens, et tu les livras entre leurs mains avec le roi et les peuples du pays pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées, de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangeaient, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière le dos, ils tuèrent tes prophètes, qui les conjurait de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimaient. Mais, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et tu les as entendus du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les as entendus du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à toi. Et ils persévèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent le cou et n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Wow! Ce matin, j'aimerais regarder avec vous trois cycles de la grande bonté de Dieu malgré la rébellion obstinée de l'homme. Et dans un premier temps, la grande bonté de Dieu face à la rébellion d'Israël est vue dans le contexte d'Israël dans le désert et lors de la conquête du pays de Canaan. Et dans un cas comme dans l'autre, Israël va mépriser la bonté de Dieu. Et si vous regardez votre texte au verset 16, le texte dit ceci: « Nos pères se livrèrent à l'orgueil et y raidirent le cou. » Et ça, c'est la source du mépris de la bonté de Dieu, c'est l'orgueil. C'est cette attitude de cœur qui pousse l'individu à vouloir s'élever au-dessus de son Créateur. Et cette attitude de cœur qui dit « Je suis mon propre chef et personne ne va me dire quoi faire. » Cette attitude de cœur qui est une attaque directe contre la souveraineté de Dieu, parce qu'on se fait Dieu, et Dieu est écarté justement de l'équation. Vous savez, l'orgueil a fait chuter Lucifer. Quand il a dit dans son cœur, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut », ça c'était l'orgueil. L'orgueil aussi était la source de la rébellion d'Adam et Ève, quand Satan a les a tentés et il a dit « Ève, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et encore une fois là, on voit comment est-ce que l'orgueil est entré en jeu. Et nous connaissons l'histoire de l'humanité, une longue suite maintenant de rébellion contre le Créateur et qui a culminé dans le pire acte de tous quand ils ont crucifié le Fils qui a été envoyé. Ils ont crucifié à la croix de Calvaire. Ça, c'est la rébellion. Ça, c'est l'homme qui regarde Dieu et dit, « Je n'en veux pas. Je suis mon propre chef. Tu ne me diras pas quoi faire. » Et cette attitude de rébellion, malheureusement, est enracinée dans la nature de l'homme, dans la nature pécheresse de l'homme, dans notre chair, dans notre cœur qui est orgueilleux. Et Jérémie 17, 9 va nous dire ceci: « Notre cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » Et alors, de ce cœur orgueilleux, péchant, où est-ce que justement l'orgueil est enraciné, il va découler alors plusieurs, ce que j'appelle des symptômes. Alors, Israël est insoumis. Il y a l'insoumission. À deux reprises, on lit ceci: « Les enfants d'Israël vont raidire le cou. » Et ça, c'est une expression, il faut dire simplement, de refuser de porter le joug. Et l'image ici, c'est comme un animal, tu veux justement, vous avez des bœufs, vous voulez les atteler ensemble, vous voulez mettre un joug, et l'animal résiste, parce qu'il ne veut pas être justement soumis au joug. Et ça, c'est l'image ici. Et dans leur insoumission, nous avons ce que Israël va faire. Il va écouter point tes commandements, ils refusant d'obéir, ils mirent en oubli les merveilles. Israël aussi est rebelle contre l'Éternel et sa, se démontre pas seulement par l'insoumission, mais l'idolâtrie. Ils vont faire un veau en métal fondu, un veau d'or. Et ça, c'est une désobéissance directe au deuxième commandement, Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée. Et pour aller encore plus loin, ils vont regarder cette image, ce veau d'or, ils vont dire, voici Israël, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelle insulte pour le Dieu vivant et vrai. Il y a aussi dans cette rébellion l'irrévérence, ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Et combien de fois nous lisons dans le livre des Exodes, dans Nombre aussi, comment est-ce que les enfants d'Israël ont murmuré contre l'Éternel, comment est-ce qu'ils ont critiqué, ils ont critiqué Moïse. En tout cas, c'était un gang de chialeux et c'était incroyable justement leur attitude face à Dieu. Et bon, j'aimerais faire une petite application ici ce matin parce que vous savez, nous parlons souvent de la reconstruction, tant matérielle que spirituelle, et ça progresse bien côté matériel. Mais où sommes-nous rendus dans la restauration spirituelle? Si le Seigneur était ici ce matin, physiquement, parmi nous ce matin, faudrait qu'il nous dise, soit collectivement ou individuellement, comme il a dit aux églises dans l'Apocalypse, « Je connais tes œuvres, mais j'ai quelque chose contre toi. » Est-ce possible que nous sommes caractérisés par les mêmes péchés que ceux d'Israël? Est-ce qu'il est possible que nous sommes souvent caractérisés par l'insoumission? Nous avons un cou raide. Est-ce possible que Dieu nous parle et nous refusons de l'écouter? Nous refusons d'obéir? Est-ce possible que nous sommes idolâtres ce matin? Qu'il y a quelque chose dans ma vie, dans votre vie, quelque chose ou quelqu'un qui a pris la place qui est réservée à Dieu? Je vous exhorter ce matin d'être transparent. Et je fais la même chose pour moi-même aussi. Il y a un beau texte, une belle prière dans Psaume 139, versets 23 et 24. Pas besoin d'y tourner. Mais j'aimerais vous exhorter de faire de cette prière un devoir aussi souvent que possible, même peut-être de façon quotidienne, de demander au Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde et vois si je suis sur une mauvaise voie. Et s'il vous plaît, Dieu, si tel est le cas, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous voulons avoir un réveil, nous voulons être restaurés spirituellement. Ça commence là. La parole de Dieu nous dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et ça, c'est Israël. Mais autant qu'Israël est enraciné dans sa rébellion, dans son cœur, autant que Dieu lui-même est enraciné dans sa nature. Tu es bon et bienfaisant, dit le psalmiste. Et c'est pourquoi nous avons au verset 17 deux mots qui veulent dire tellement. Face à cette rébellion de Dieu, nous lisons « Mais toi !» Quelle belle parole !« Mais toi !» Israël, rebelle, insoumis, idolâtre, insultant, irrévérent. Mais Dieu, face à tout cela, il est bon. Et parce qu'il est bon, il est prêt à pardonner. Petit Larousse nous dit ceci, prêt à renoncer à punir une faute. Notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Nous avons des beaux textes dans la parole de Dieu, Psaume 4, 26, 5. Car tu es bon, tu pardonnes. Psaume 134, le psalmiste est conscient de ses nombreuses iniquités, ses péchés. Il va dire ceci, mais le pardon se trouve auprès de toi. Et dans Isaïe 57, nous lisons ceci, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais ce n'est pas tout. Parce que face à la rébellion de Dieu, des enfants d'Israël, face à la rébellion des enfants d'Israël face à Dieu, face à l'insoumission, l'idolâtrie, ses insultes et son irrévérence, Dieu, dans sa bonté, est non pas seulement prêt à pardonner, mais il est un Dieu qui est compatissant et miséricordieux. Et quel beau Dieu, hein? La compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Cette compassion pour l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il lui avait donné tout ce qu'il fallait. Il avait mis dans un paradis, dans un contexte idéal. Et l'homme, à cause du péché, est tombé. Combien loin il est tombé de cet être dans son innocence, qui jouissait d'une communion intime avec son Dieu. Et aujourd'hui, cet homme maintenant qui est rebelle, qui est devenu l'ennemi de Dieu, où le péché, comme nous avons entendu ce matin, trop souvent domine et amène justement l'être humain par le bout du nez, comme on dit. Je vous dis que c'est une. Quand on regarde ce que Dieu avait fait au début, et quand on regarde où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, je vous dis qu'on fait pitié. Mais Dieu, dans sa compassion, il a pitié de notre état. Il est saisi dans ses tripes parce que nous sommes en train de vivre. Comment est-ce que le péché nous amène tant de problèmes, de difficultés, de souffrances? Et Dieu n'est pas indifférent. Il est compatissant. Et parce qu'il est compatissant, il est aussi miséricordieux. Miséricorde pour ne pas nous donner ce que nous méritons. Et ce qu'Israël aussi mérité d'être abandonné. Il aurait pu dire à Israël, écoute, c'est fini avec vous autres. Là. Je t'annie. Je m'en lave les mains. Je ne veux plus rien savoir de vous. Verset 19 nous dit ceci, « Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, même si c'est ce qu'ils méritaient. » Et ça, c'est un thème qui revient souvent dans la parole de Dieu. Compatissant, miséricordieux. Compatissant, miséricordieux. Psaume 86, 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Psaume 103, 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Psaume 116, 5. Notre Dieu est plein de compassion. Et Psaume 136, vous lisez, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il ne peut pas être autre chose que miséricordieux. Et il est miséricordieux à l'égard d'Israël. Et Dieu n'est pas terminé, parce qu'il est aussi lent à la colère et riche en bonté. Et là, vous avez une traduction anglaise qui est intéressante. Long la colère en anglais est traduit par long suffering, qui veut dire que on a beaucoup de patience. On souffre longtemps avec la personne. C'est la notion d'une patience extrême de supporter une situation désagréable pendant une longue période de temps. Et c'est ce que Dieu a fait à l'égard d'Israël. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et Psaume 78 résume ceci. Que de fois il se révolta contre lui dans le désert. Que de fois il l'irrita dans la solitude. Il ne cessa de tenter Dieu et de provoquer le sang d'Israël. Et face à tout cela, la réponse de Dieu, il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et qui ne revient pas. Et combien ce matin nous devrions être reconnaissants envers Dieu pour cet attribut, ce Dieu qui est lent à la colère, qui est patient avec nous, riche en bonté. Et parce que la bonté de Dieu est enracinée dans sa nature, malgré la rébellion d'Israël, Dieu va maintenant démontrer sa bonté. Malgré le fait qu'il en provoquait, malgré le fait qu'il en fait un veau d'or, malgré le fait qu'il en dit, voici Israël, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, Dieu ne les a pas abandonnés et dans sa bonté, sa présence les accompagne. La colonne de nuée ne le cessa point de les guider, le jour dans le chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Quelle bonté de Dieu. Tu leur donneras ton bon esprit pour les rendre sages. Dieu aussi va démontrer sa bonté. Malgré leur rébellion, il va pourvoir à leurs besoins. Tu ne refusas point ta main à leur bouche. Tu leur donneras fourni de l'eau pour leur soif. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Dieu va démontrer aussi sa bonté par sa puissance, dévoyée à leur égard envers les autres peuples. Tu le livras des royaumes et des peuples. Tu humilias devant tous les habitants du pays, des Canaans, et tu livras entre leurs mains avec leur roi. Et nous avons l'histoire de la conquête de Jéricho et ainsi de suite. Et Dieu, malgré cette rébellion de ce peuple-là, il va déployer sa puissance justement pour les aider à prendre possession du pays. Et finalement, Dieu va leur accorder la prospérité. Vous savez, Israël, c'est un peuple terrestre. Alors, c'est tout à fait normal aussi qu'il rentre dans les bénédictions terrestres. Il devint maître de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens. Ils mangeaient, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent. Ils vécurent dans le délice. Comment? Par la grande bonté de Dieu. Juste aimerais clarifier deux choses ici avant d'aller au prochain point. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonasse. C'est très important. Et son pardon n'annule pas ses lois spirituelles. Galates nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Et le péché même pardonner peut avoir des conséquences graves. Israël a erré 40 années dans le désert, même s'il bénéficiait de la bonté de Dieu. Et le roi David, pardonné par Dieu, après son adultère et son meurtre, il a subi des choses graves, tragiques au sein de sa famille. Et la deuxième chose, que la bonté de Dieu n'est pas non plus un prétexte, une incitation pour pécher, au libertinage, ou selon un faux raisonnement. On va pécher plus pour que la grâce de Dieu abonde, un peu comme en Romains chapitre 6 au verset 1. Paul répond par un nom catégorique. Et comme nous avons entendu ce matin, quand nous nous identifions avec Christ, nous identifions avec son mort, son mort au péché. Et deuxièmement, Christ est mort pour un but précis de nous délivrer de l'esclavage du péché. Alors même si Dieu est bon, ce n'est pas un prétexte pour nous de se vautrer dans le péché, parce qu'en étant avec Christ, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Au contraire, la bonté de Dieu devrait nous pousser à la repentance, d'avoir un cœur brisé, devant tant de bonté, devant tant de rébellion, devant tant d'injustice de ma part, comment se fait-il que Dieu persévère et patient et si bon à notre égard? Mais aussi dans ce que je suis en train de dire, il y a aussi un contexte d'encouragement. Parce que parfois, Dieu est prêt à pardonner. Nous avons vu dans le texte. Mais parfois, vous et moi, nous avons de la difficulté à nous pardonner nous-mêmes. Et il se peut ce matin qu'il y a quelques-uns ici dans cette salle, vous portez un point de culpabilité à cause d'un acte que vous avez fait dans le passé. Et vous luttez avec cela Mais parfois, ça fait surface, ça vous enlève votre joie et ça vous rend la vie difficile. Le texte nous dit que Dieu est prêt à pardonner. Et n'importe quel péché, aussitôt confessé, aussitôt pardonné. Hébreux 10, 17 dit ceci, « Je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Et vous savez une chose, si vous et moi, si nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes, nous sommes en train de porter atteinte au sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes en train de dire à Dieu, « Oui, Jésus-Christ est mort pour les péchés, mais il y a un péché que son sang n'est pas assez puissant ou efficace pour l'enrayer, pour me faire pardonner, et je dois moi-même payer pour cela. » Et ça, c'est grave. Mais aussi, il y a un autre contexte en ce qui concerne le pardon. Il y a parfois des gens qui nous blessent. Et nous avons des difficultés à pardonner aux autres. Qu'est-ce que le texte nous dit ce matin? Dieu est un Dieu qui est prêt à pardonner. Il est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Éphésiens 6, 32, qui parle aux croyants, « Soyez bons, alors les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Alors ce matin, si vous êtes dans une situation ou l'autre, rappelez-vous que Dieu est un Dieu qui pardonne et vous pouvez prendre justement pour vous cette parole-là, soit de vous pardonner vous-même, ou bien de prendre la parole de Dieu et de pardonner aux autres. Imitez le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est bon et bienfaisant. Et je vais rapidement continuer. Je vois mon temps presque écoulé. Un deuxième, c'est le contexte en face de la rébellion d'Israël et dans le pays de l'époque des juges maintenant. On m'en passe du désert et la conquête, ça va dans l'époque des juges. Et là, ils sont dans un contexte de prospérité. Et dans le désert, on a vu l'insoumission. Ici, maintenant, on va voir l'insurrection. Israël se soulève et se révolte contre l'Éternel. Et c'est intéressant que le mot ici, soulevé, c'est la racine du mot. C'est un mot qui veut dire mara, qui veut dire amer. Et pourquoi est-ce que l'Esprit nous a donné ce mot-là? C'est parce que Dieu a demandé une chose à Israël, et il demande la même chose aussi à vous et à moi, c'est la soumission. Pour Dieu, d'être Dieu, il faut que nous reconnaissions une chose, qu'il est souverain. Le moment qu'on n'accepte pas cette position élevée de Dieu, qu'il est souverain, on est en train de dire, tu n'es pas Dieu. Et ça, ça a toujours irrité les enfants d'Israël. Ils n'ont jamais digéré cette exigence de Dieu à leur égard, d'être soumis à Dieu. Et ils vont focaliser là-dessus, ça les irrite au plus haut point. Ils en veulent à Dieu et leur cœur est rempli d'amertume. Et ça, c'est justement le contexte de ce texte ici. Ils se soulevèrent et se révoltèrent contre Dieu. Et on voit justement le résultat. Ils vont jeter la loi de Dieu devant leur dos. Ils vont tuer les prophètes, etc. Ils vont se livrer envers Dieu à de grands outrages. Mais encore une fois, la bonté de Dieu se manifeste. Cette fois-ci, Dieu il va les discipliner. Vous allez dire, ah, il n'est pas bon. Mais laissez-moi vous dire, en tant que père ou parent terrestre, si vous aimez vos enfants, vous allez les discipliner. Et Dieu qui aime son peuple, il les aime assez pour les discipliner. Il va les livrer entre les mains de leurs ennemis qui les ont opprimés. Hébreux 13 nous dit ceci, que Dieu durcit, le Seigneur corrige celui qui l'aime. Et combien de fois maintenant on rentre dans le cycle des juges? Combien de fois nous voyons ce cycle? Où est-ce que le peuple pêche? Dieu permet à leurs ennemis de les opprimer. Ils vont crier à Dieu. Dieu va les délivrer. Ils vont sortir de cette oppression. Il y a un libérateur. Le libérateur meurt et ça commence, et ça commence, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. C'est comme un 45 tours, là, 33 tours et un tiers, là, qui s'est brisé, là, puis ça fait toujours la même chose, ça tourne, c'est le même cycle ici que nous avons dans le livre des juges. Je vous donne une citation de Chuck Swindoll qui dit ceci: l'histoire de l'époque des juges, déclin, oppression, repentance, délivrance et un retour à la prospérité, tragique et dégoûtante, c'est une descente spirale à la fois tragique et dégoûtante vers le chaos national à tous les niveaux, spirituel, politique, économique et social. Et combien de fois nous lisons dans le livre de Juges, des enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Mais Dieu, dans sa bonté, encore une fois, il va les délivrer. Et finalement, on va tomber dans l'époque des rois. Israël échoue à l'époque du désert, dans le pays des juges, et même dans une monarchie, encore une fois, c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle l'incrustation. Vous avez l'insurrection, vous avez l'insoumission, mais maintenant l'orgueil, il se persévère dans l'orgueil. Et laissez-moi vous dire une chose, celui qui persévère dans l'orgueil, son cœur s'endurcit, et c'est pourquoi son cœur devient encroûté par l'orgueil. Et ça, c'est l'état d'Israël. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils font? Mais vous voyez, ils vont toutes faire ces choses contre Dieu. Et n'écoutez pas ses commandements, ils péchèrent contre ses ordonnances, etc., etc., etc. Et Dieu, dans sa bonté, va leur donner des prophètes. Il va les supporter. Il va les donner des avertissements. Il va maintenant les discipliner. Et cette fois-ci, c'est un peu plus... Sa main est plus pesante. Il s'en va dans l'exil, dans les pays étrangers. Et même à l'époque, quand ils sont amenés en captivité, Dieu va aller les chercher. Après 70 ans, il va les ramener dans le pays. Pourquoi? Parce que dans sa grande miséricorde, tu ne les extermines pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Wow! Quel bon texte extraordinaire de Dieu à l'égard d'Israël, malgré tant de rébellions obstinées. Je termine avec deux questions. Vous savez, on l'a entendu ce matin, nous vivons dans un pays où coule le lait et le miel dans l'abondance ici en Amérique du Nord. Et nous qui sommes sauvés, nous avons aussi doublement raison d'être un peuple reconnaissant. Nos péchés sont pardonnés. Nous savons ce qui nous attend. Nous avons la vie éternelle. Nous allons vivre éternellement avec Dieu. Et pourtant, malheureusement, trop souvent, nous sommes caractérisés par l'ingratitude, le chiolage, etc., etc. On n'est pas reconnaissant. Alors, j'aimerais vous encourager ce matin, et moi-même, je me parle, de cultiver une attitude de reconnaissance envers Dieu pour toute sa bonté à notre égard. Combien on devrait faire monter vers Dieu des louanges. Je pense ici à Psaume 113 au verset 6. Le psalmiste va dire ceci: j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Que nos bouches soient remplies d'actions de grâce et de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, au lieu d'être des personnes qui critiquent et qui murmurent. Combien ça doit attrister notre Dieu. Et deuxièmement, si vous n'êtes pas sauvé, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, mais la bonté de Dieu, comme on les avons dans Romains, devrait nous pousser à la repentance. D'être reconnaissant, oui, mais aussi repentant. David, dans Psaume 51, 3, va dire ceci: il est conscient qu'il a péché contre Dieu. Il va dire ceci: ô Dieu, aie pitié de moi, mais pourquoi? Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Et si vous faites cette prière, vous êtes ici, vous ne pouvez pas dire que Jésus-Christ est mon sauveur personnel. Si je meurs maintenant, je m'en vais au ciel. Vous faites une telle prière. Et sur l'autorité de la parole de Dieu, je vous dis que Dieu va exaucer cette prière. Parce qu'il est bon. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Et cet homme, le publicain qui est allé au temple et qui s'est frappé sur la poitrine, il a dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Cet homme est descendu dans sa maison justifié. Alors, je vous invite à le faire tout d'abord pour le glorifier Dieu et pour éviter de passer l'éternité loin de sa présence. Pas en présence de sa bonté, mais plutôt en présence de sa colère. Et ce serait très tragique. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, tu connais nos cœurs, nous voulons avoir un cœur brisé et contrit devant ta personne, devant tant de patience, de persévérance, de bonté à notre égard. Ô Seigneur, garde-nous d'être comme Israël, d'avoir le cou raide, et que nous soyons ceux qui sont soumis à ton joug, parce que tu es un Dieu qui nous a fait tant de bien. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis-nous ensemble. Conduis-nous. Nous voulons être sous ta bannière. Et s'il y a quelques-uns ici qui ne te connaissent pas, ô Dieu, sois miséricordieux à leur égard. C'est par nous avec ta bénédiction. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.